Podcast Lire aux éclats.
Voici, je fais toutes choses nouvelles.
Nous sommes dans une aventure incertaine.
Lire aux éclats.
Lord, I know I've been changed. Seigneur, je sais que j'ai été changé. Morceau classique de gospel interprété par la chorale Picpus Singing. Bienvenue pour ce deuxième épisode du podcast Lire aux éclats de Réseau Picpus. On ne se connaît pas depuis très longtemps, mais on va déjà vous proposer de changer. Heureusement, il y a une chose qui ne change pas.
C'est nous, Camille avec le frère Antoine, avec dans l'équipe Adé, Alexis et le frère Quentin. La pénitence n'aura jamais semblé si douce.
Arrête de spoiler avec la pénitence, tu vas leur faire peur. Mais c'est vrai que la nature se transforme et le carême a commencé. C'est pourquoi on va vous parler du renouveau par le principe de conversion.
Et en un seul mot, je précise.
C'est nul comme blague.
Si vous croyez que la conversion, ça se limite à une chose, vous allez vous convertir en écoutant cet épisode. Au programme, comme toujours, interview d'un spécialiste, de la musique, du théâtre, de l'écologie, et même un micro-trottoir. Sans oublier la minute spi du frère Quentin.
Merci Camille. J'ai l'impression que rien qu'à annoncer le menu, tu deviens une meilleure personne.
Quel sale type. Toi, on attend encore. Hein. Bon, la suite.
Alain Thomasset, bonjour. Vous êtes jésuite, prêtre, doyen de la faculté de théologie du Centre Sèvres, où vous enseignez la théologie morale depuis l'année de ma naissance, 1995. C'est votre grand domaine, l'éthique chrétienne, cette interaction entre le fond théologique, le discours de l'Église et la société. Merci beaucoup de nous faire de la place dans votre emploi du temps et de contribuer à ce projet.
Merci de m'inviter.
En septembre dernier, vous avez co-animé la session de rentrée du Centre Sèvres qui avait pour thème « À quelles conversions personnelles et collectives sommes-nous aujourd'hui appelés ?» Pour ouvrir notre propos, pourriez-vous commencer avec ce terme de conversion ? Le mot s'est banalisé dans le discours contemporain pour désigner des attitudes et des opérations dans des champs très divers, écologiques, économiques, professionnels. Mais qu'en est-il dans la Bible et le christianisme ?
Alors le mot conversion, en latin conversio, en grec il y a deux mots, hein, épistrophé et metanoia. En gros, ça dit deux choses. Ça dit, souvent épistrophé, c'est le retour à soi, c'est le retour à l'origine, à sa propre réalité intérieure, on pourrait dire, un retour vers soi, qui suppose évidemment un changement, sans doute. Et puis, métanoïa, c'est plus changement de perspective, changement de vision, changement de paradigme. Et dans la tradition chrétienne, c'est devenu quelqu'un qui se convertit, c'est quelqu'un qui change de vie. C'est Ignace de Loyola, militaire, et tout d'un coup, il se retrouve sur un lieu d'hôpital, il lit les évangiles, il lit la vie des saints, et peu à peu, il change de vie. Voilà. Il devient un pèlerin qui va annoncer l'évangile au lieu d'être un homme d'armes. Voilà, en gros, les deux grandes manières de voir le mot conversion.
À partir de ça, comment comprendre la reprise du terme dans d'autres contextes ? Est-ce que ce sont des abus de langage ou est-ce qu'il y a des vrais parallèles ? Est-ce que dans ces autres catégories, on peut cibler des éléments centraux qu'on va retrouver dès lors que l'on parle de conversion ? Par exemple, c'est quoi le point commun entre Saint François d'Assise et sa conversion par le baiser aux lépreux et un citoyen lambda qui va, par exemple, renoncer à utiliser un frigo ?
Il y a un changement dans les deux cas, on pourrait dire. Voilà, il y a un changement d'attitude. Alors, c'est vrai qu'on utilise le mot conversion aujourd'hui pour beaucoup de choses. Conversion de son poêle à fioul en poêle à gaz, conversion... de la voiture à essence à une voiture électrique, on a des primes à la conversion. Voilà. Le gouvernement nous donne des primes à la conversion, c'est-à-dire à changer d'utilisation. On en parle aussi en matière d'économie, en disant, voilà, il faut une conversion économique, changer de paradigme économique, penser par exemple à une économie circulaire ou une économie plus respectueuse de l'environnement. On parle de conversion aussi dans la question de l'éducation. On se dit par exemple utiliser une pédagogie inversée. C'est pas le prof qui enseigne, ce sont les étudiants qui préparent, qui disputent entre eux, et le prof est un arbitre. Donc on change de perspective, vous voyez. Mais c'est certainement dans le domaine écologique où le mot est le plus utilisé en ces jours-ci. Sans doute pour deux raisons, je dirais. D'abord parce qu'on voit bien que la crise écologique, ça touche à l'essentiel, ça touche à nos manières de vivre, et ça touche à la fois une conversion à la fois individuelle et collective. Donc c'est à la fois une invitation à un changement de mode de vie, mais qui ne pourra pas se faire simplement de manière individuelle. Voilà. Et du coup, cette profondeur et cette dimension collective donnent au mot conversion un poids qui est assez, on pourrait dire qu'on peut mettre en relation avec la dimension religieuse de la conversion. Parce que quand ça touche à l'intériorité des gens, là il y a des similitudes qui sont assez fortes, de fait. La conversion écologique a besoin de ressources spirituelles aujourd'hui, on voit bien. Alors le catholicisme, entre autres, peut en fournir. Et Laudate aussi, d'ailleurs, le fait dans le chapitre 6.
Alors justement, vous parlez des ressources spirituelles et de l'intériorité. En gardant en thème le thème du renouveau de ce podcast, pouvez-vous nous donner des éléments du processus intérieur qui concerne la transition entre le point A et le point B?
Alors, il y a plusieurs types de conversions. Il y a des conversions brutales, bon, alors Saint Paul. Et puis, il y a des conversions progressives. Voilà, c'est ce qui arrive, par exemple, aux disciples dans l'évangile de Marc. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Il y a des éléments que nous indique la psychologie aussi. On pourrait dire, la conversion, ça commence sans doute par une insatisfaction dans le paradigme de rapport au monde dans lequel on est. On pourrait dire, c'est un premier temps d'insatisfaction. Et puis, il y a un temps intermédiaire où, finalement, on se cherche. Le paradigme ancien n'est plus valable, le paradigme nouveau n'est pas encore là. Et il y a un temps sans doute un peu inconfortable où la personne s'interroge. Bon, peut-être Saint Ignace, quand il est sur son lit d'hôpital, c'est un peu ça. Il lit, il ne sait pas trop, il voit qu'il y a différents esprits, il a différentes inspirations. Il rêve d'exploits de chevalerie, et en même temps il rêve d'être comme Saint François et Saint Dominique, mais il n'a pas choisi. Il est un peu entre deux. Et puis on peut dire une troisième étape, ce serait quand on adopte alors un nouveau paradigme, une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière de voir le monde, d'habiter le monde. Et on peut dire que ça, c'est un peu une phase plus avancée de la conversion. Ça ne veut pas dire que c'est fini, parce que c'est jamais terminé. Il y a toujours un processus en cours pour approfondir cette conversion qui n'est jamais aboutie.
Je retiens cette belle piste de finalement l'adéquation de soi avec son environnement. Et justement, dans une société si médiatique comme la nôtre, est-ce qu'une conversion est toujours libre et personnelle? Est-ce que sinon, on ne peut pas parler de conversion? Parce qu'il y a beaucoup de pression, on est tout le temps immergé dans des discours. Donc, est-ce qu'il y a une conversion sans que ça passe par le cœur de l'individu?
Vous savez, quand vous prenez la tradition chrétienne des conversions de... Même si vous prenez Saint Ignace, Saint François, Thérèse d'Avila ou les autres, ils ont toujours été influencés par d'autres. Ils ont l'exemple d'autres qui les ont précédés. Ignace, il va lire les exploits de Saint François, les exploits de Saint Dominique. C'est pas pour autant qu'il n'est pas libre, mais il a besoin de modèles. Il a besoin d'exemples qui l'inspirent. Et aujourd'hui aussi, c'est pareil, les gens qui font des conversions écologiques ou des conversions professionnelles, ils ont des exemples qui les inspirent. C'est pas pour autant qu'ils ne sont pas libres. Mais ils choisissent sous l'influence forcément d'autres. Alors parfois ça peut être de l'endoctrinement, et à ce moment-là c'est pas libre, on est d'accord, il y a des conversions qui peuvent être dangereuses, voire totalitaires. Mais sinon, de manière générale, la conversion c'est quand même un mouvement du sujet. Voilà. Simplement, c'est notre liberté, elle n'est pas absolue, elle est toujours conditionnée aussi par notre environnement, par les exemples qui nous environnent. Et pour une conversion chrétienne, c'est la lecture de la Bible, c'est l'exemple des saints, c'est la communauté chrétienne dans sa prière, dans sa liturgie. Voilà. Il y a plein d'exemples qui montrent que la conversion Il y a plein de médiations pour une conversion. Et elles sont variées selon les gens. Des fois, c'est une rencontre, des fois, c'est une lecture. Des fois, c'est la lecture de Laudato Si, par exemple, pour les conversions écologiques. J'en entends, ça existe. Donc, voilà. Ça se fait avec un support, une médiation, qui n'est pas simplement l'individu tout seul, qui choisit tout seul dans son coin.
Très bien, merci déjà pour tous ces éléments. Pour finir, est-ce que vous auriez des conseils de lecture d'une œuvre pour creuser ce sujet et observer la conversion dans une production ?
Bon, je dirais les deux grands classiques du sujet, les Confessions de saint Augustin, qui raconte merveilleusement sa conversion, et qui décrit d'ailleurs pas mal d'étapes de son cheminement. Hein. Un cheminement d'abord intellectuel et un cheminement affectif. Il y a différentes dimensions de sa conversion aussi. Et puis l'autre exemple, c'est la vie de saint Antoine par saint Athanase. Là aussi, saint Antoine qui entend l'évangile du jeune homme riche et qui se dit, ben voilà, il faut que je lâche tout et je vais au désert pour suivre le Christ. Donc, alors après, c'est pas fini parce qu'il y aura plein de tentations. Donc il y a des conversions qui continuent derrière. Et cette vie est tout à fait intéressante à regarder.
Merci beaucoup Alain Thomasset pour tous ces éléments de réflexion qui vont vraiment nourrir toute la suite de l'épisode.
Merci.
À ceux qui écoutent, je sais que vous êtes déjà en train de rechercher une version liseuse des Confessions de saint Augustin, mais attendez un peu car on va plonger en zone de guerre avec notre reporter spécial Adélaïde pour savoir en pratique comment chacun gère la conversion.
Podcast Lire aux éclats. Lire aux éclats.
Et oui, je suis allée entre autres à la rencontre de jeunes du réseau à la sortie de la messe de la chapelle Saint-Michel de Picpus le soir du mercredi des cendres. À toutes et tous, j'ai posé la même question à partir de la phrase « Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». En effet, il s'agit de la phrase prononcée par le prêtre lors de l'imposition des cendres en début de carême. Merci à Quentin, Henri, Anne, Marie, Laure et Gabriel de nous avoir partagé sur ce que cette parole et ce rituel signifient pour eux. On écoute tout de suite leur réponse.
Alors déjà, ça m'a aussi bougé pour savoir déjà, pour être bien sûr de savoir ce qu'est cette bonne nouvelle.
Le carême, pour moi, c'est une période de conversion. C'est l'occasion qui m'est donnée de titiller mon envie de me rapprocher de Dieu. Une occasion qui est donnée par l'année liturgique, en fait, et c'est assez bienvenu.
Alors, en ce début de carême, déjà, je trouve que c'est une phrase très positive. Elle m'a été dite avec beaucoup de conviction et ça m'a donné envie de vivre ce carême à fond. Donc convertissez-vous. Bah oui, c'est ça le sens du carême, d'essayer d'être une femme meilleure.
Eh bien, je me suis rappelé que j'étais un agrégat de particules. Non, je plaisante. Que c'est vrai que j'étais un être pétri d'argile qui dépend de Dieu finalement, qui n'est rien sans Dieu et sans l'environnement. Et cette démarche, c'est un signe d'humilité de recevoir ses cendres sur le front.
Bah moi, le fait de lier les deux, ça me dit de vivre vraiment l'évangile, de pas seulement l'écouter, mais de me convertir dans le sens où je suis appelée l'amener dans ma vie.
Moi, j'ai beaucoup réfléchi pendant cette messe à ce que représentait le jeûne pour moi. Pourquoi jeûner pendant le carême? Alors, en fait, le fait de me priver de quelque chose que j'aime bien, c'est me priver d'un peu de mon confort et me priver de mon confort pour faire de la place à autre chose. Parce que le confort, c'est quelque chose qui, au quotidien, fait que moi, je peux me passer de Dieu. J'ai une vie assez confortable. Et donc, jeûner de quelque chose que j'aime bien, c'est pas forcément alimentaire. Décider de m'en priver, pour faire de la place. Et c'est aussi l'occasion de me rappeler, chaque fois que je m'en prive, de penser à Dieu, comme font un peu les Juifs avec tous leurs commandements.
Ça me fait penser au mot du prêtre tout à l'heure, dans son homélie, qui disait... l'idée de se convertir, c'est de prendre le chemin opposé à celui qu'on prenait, enfin, qui, sous-entendu le chemin de la tentation. Donc là, c'est de prendre toute tentation ou tout travers qu'on a tendance à avoir, toute tentation, à la prendre de face et à l'affronter.
Comme il a été souligné dans l'homélie, ça évoque le début d'un temps qui nous est offert pour se connaître nous-mêmes, pour essayer de, pendant ce carême, essayer de comprendre comment ça se fait qu'il puisse y avoir un tel écart entre certaines de nos attitudes et les attitudes qu'on estime bonnes, c'est-à-dire celles auxquelles on se sent appelé par Dieu. Voilà. Et pour ça, créer pendant ce temps de carême des espaces par des privations pour arriver à relativiser en fait l'importance de toutes ces choses dont on peut se priver pour notre équilibre et créer de l'espace pour une vie intérieure justement pour se connaître mieux soi-même.
Moi, pendant le carême, j'essaie de jeûner de quelque chose dont j'ai particulièrement du mal à me passer, quelque chose dont je suis, pour ainsi dire, dépendante. Alors, ça peut être... Alors, je ne suis pas dépendante de ça, mais on peut penser au téléphone, au chocolat, au dessert, à l'alcool. Enfin, ça peut être ce genre de choses. Et en fait, moi, je ne veux pas être dépendante de quelque chose parce que je veux être libre. Et la dépendance, c'est quelque chose de matériel sur quoi je m'appuie de manière un peu factice pour vivre. Et moi, j'ai envie de retrouver le sens de ce qui m'aide à vivre, et ce qui m'aide à vivre, c'est de m'appuyer sur Dieu.
Se pousser dans ses retranchements, si je puis dire, pour voir en fait qu'est-ce qui ne fonctionne pas si bien que ça, au-delà du vernis que je me mets volontiers, qu'est-ce qu'il y a derrière ce vernis et qu'est-ce qui est moins reluisant et qu'est-ce qui a besoin d'être soigné, guéri, entretenu, amélioré. C'est plus spirituel que des pistes d'amélioration, mais c'est un petit peu le principe.
Croyez à la bonne nouvelle, bah, ça me donne envie aussi de... presque d'annoncer la bonne nouvelle, en fait. Voilà, même si c'est à ma mesure, évidemment, mais voilà ce que ça m'inspire.
Les roses éclats.
Bon, Camille, je ne te demande pas à toi, car je n'ai pas envie de scandaliser l'auditoire.
Eh bien, la privation que je ferais volontiers, ce serait tes commentaires. Mais je trouve ça pas mal, cette idée que la conversion nous met pas seulement face à Dieu, mais aussi face à nous-mêmes.
Et ça t'est jamais arrivé à toi de remettre en question la direction que prenait ta vie sociale et professionnelle? Surtout quand on sait que tu ne consommes plus d'aspirine depuis que tu en commercialises.
Arrête de tout dramatiser, et laisse la comédie aux gens du théâtre.
Les éclats.
Bon bah, il ne manque plus qu'Antoine. En parlant du loup.
Ne t'inquiète pas, Adèle, j'y vais.
Mais qu'est-ce que vous avez tous là? Je vais très bien, j'ai pas besoin de me reposer.
Mais oui, t'inquiète pas. Robuste je suis grâce à la force, mais pas à ce point-là. Le crépuscule m'envahit et bientôt la nuit va tomber. Ainsi vont les choses, ainsi va la force. Vous la connaissez tous, j'imagine.
Bonsoir, je suis avec Pauline Rénal, qui est metteuse en scène pour une des pièces de la troupe Réplique Plus, une pièce qui parle, entre autres, de la reconversion professionnelle. Il se trouve également que cette pièce a été coécrite par Juliette, qui y joue un rôle en tant que comédienne. Alors Pauline, peux-tu nous raconter ce que raconte cette pièce et ce qui t'a inspirée pour l'écrire ?
Alors, je trouve que c'est un sujet assez d'actualité en ce moment, particulièrement dans la trentaine. On entend beaucoup autour de nous, que ce soit au niveau des réseaux sociaux ou nos familles, nos proches, nos amis, qui se remettent en question, qui vont se reconvertir. Je pense que les premières parties étudiants, on va dans le milieu qui nous plaît et ensuite on va essayer vraiment de se remettre en question, de voir si ça nous plaît et découvrir d'autres métiers. Donc je trouve que c'est assez adapté à ce qui se passe en ce moment. Et il y a aussi le fait de la reconversion, mais aussi au niveau amical, le renouvellement. Parce qu'on se rend compte que nos amis qu'on a depuis 10-15 ans, au final, chacun va un peu de son côté et par rapport à son milieu professionnel, on va tous évoluer, changer et avoir des divergences à ce niveau-là, ce qui est assez intéressant et donc ce qu'on a voulu relater un peu dans la pièce.
D'accord, merci. Donc c'est les relations qui changent et en même temps du coup aussi les aspirations parce qu'à partir d'un certain âge, 30 ans, 40 ans pour certains, on peut commencer à se reposer des questions.
ou à se poser, à commencer à se poser des questions tout court.
Et même 50 ans, 60 ans, 70 ans.
Exactement.
Et alors, du coup, on a dans la pièce, il y a justement un passage particulièrement intéressant concernant un des personnages, Adèle, et notamment sur le regard qui est porté sur cette phase dans laquelle elle se trouve, qui est plutôt inconfortable et liée notamment à sa reconversion professionnelle.
Comment encore ? Mais c'est ma fête ce soir, décidément ! Moi, je voulais juste passer une bonne soirée entre amis, comme au bon vieux temps.
Mais on est au courant pour... tu sais quoi ?
Pour ?
Pour ta 2PREE2SION.
Hein ?
Non mais Adèle, ne t'inquiète pas, tu sais, ça peut arriver au meilleur, tu sais, une dépression, tu peux en guérir. Tu sais, ma grand-tante Bertie, elle a eu une dépression, elle en est guérie. Bon, par contre, son chat croquette, ça l'a tué, mais tu peux quand même en guérir.
Je pense que tu voulais être rassurant, Antoine, mais je suis pas sûre que ce soit le message perçu, là.
Non mais, je fais pas de dépression. Mais qu'est-ce qui vous entend raconter ça? C'est Marie, je suis sûre.
Mais Adèle, t'as besoin de nier, tu sais. Quand je suis passée te voir la semaine dernière, il y avait un livre posé sur ta table de nuit. 10 choses à faire avant de partir sereinement. Et là, je vois ton affiche, 100 lieues avant de mourir. Alors bon, on ne veut pas que tu partes, hein. On veut que tu restes dans ce monde avec nous. On t'aide, tu sais.
Non mais j'hallucine. Ça parle de voyage. Je vais partir en voyage. 100 lieues à voir avant de mourir pour me donner des idées de destination. Et 10 choses à faire avant de partir... En voyage !
En effet, en fait, Adèle, c'est quelqu'un qui vit chez ses parents parce qu'elle veut prendre vraiment cette étape de la vie où elle se remet en question. Elle a besoin d'une pause. Et donc, du coup, elle vit chez ses parents et elle aimerait retourner aux sources qui, elle, est dans les... travailler dans les ONG, dans les besoins environnementaux. Et elle est assez montrée du doigt, que ce soit par ses amis, par la société, parce que pour elle, ils pensent même qu'elle est dépressive parce qu'elle est revenue chez ses parents, parce qu'elle ne travaille pas et parce qu'elle veut faire ce dont elle rêve. En fait, la perception de chacun est assez intéressante. Que eux, ils pensent que bah, justement, elle en est jusqu'à être dépressive, jusqu'à avoir des idées suicidaires, alors que non, elle veut juste voyager, faire ce qui lui plaît, et quitte à avoir un statut dans la société qui est beaucoup moins valorisé exactement que d'autres. Et qu'en fait, elle suit ses idées, elle suit ses projets et qu'elle s'en fiche de ce qu'on y pense. Et ce que du coup, pour ses amis, c'est assez compliqué de voir ça. Donc c'est assez intéressant.
Est-ce que du coup, cette pièce que tu as écrite, la manière dont tu l'as écrite, d'ailleurs aussi un peu avec Juliette, est-ce que ça a provoqué ou inspiré des reconversions dans ta vie personnelle ? Ou professionnelles ?
Alors, je pense qu'elles étaient déjà là, mais c'est vrai que j'ai aussi eu une remise en question professionnelle après la pièce. Alors, je ne peux pas dire c'est à cause de la pièce, mais après la pièce où je me suis remise en question en me disant est-ce que je suis vraiment heureuse dans mon travail ? Puis justement, je change de travail en ayant le même statut, mais en faisant quelque chose qui me plaît un peu plus dans l'aide d'ailleurs, un peu comme Adèle. Et donc, du coup, c'est assez intéressant de voir ça. Et depuis que justement il y a la pièce, je me rends compte qu'autour de nous, il y a enfin, j'entends beaucoup d'histoires de personnes qui me disent « Ah, bah, j'ai changé de métier » et justement qui font des choses un peu moins valorisées que ce qu'ils faisaient avant.
Heureux éclat.
Moi, j'ai pas de crise existentielle, mais ça me dirait bien d'aller voir la pièce.
Ah oui ? Et tes relations sont pas différentes depuis que tu es moine ? Y a pas des gens pour lesquels tu te dis « Pourquoi je perds mon temps ?» et on veut pas les mêmes choses, en fait.
Alors déjà, je suis pas moine et c'est justement la raison pour laquelle ma conversion à ce niveau, ça consiste pas à lâcher les gens, mais... à faire encore plus d'efforts pour les inclure et à redécouvrir ce qui nous relie vraiment au-delà de certains plaisirs faciles.
Ouais, enfin, t'es bien content quand je te paie à manger, quand même.
Oui, ben c'est pour ça que je t'aime. Bon, la seconde raison, bien sûr, c'est que Jésus t'aime.
Bref. En tout cas, si tu veux aller voir la pièce, ce sera les 11 et 12 juin prochains. En attendant, il y a des lieux de conversion qui sont brûlants d'actualité. On envoie l'écologie avec notre prof d'SVT favorite et on enchaîne avec Meredith de la chorale, qui nous présentera ce fameux chant qu'on entend. Tenez d'ailleurs, le voici.
Thank you.
Les roses éclats.
Bonjour à tous, je suis Camille, je suis au réseau Picpus depuis automne 2018. Cette année, je suis engagée en tant que responsable PIC Action et dans une moindre mesure avec la fraternité Saint-Hildegarde. Si vous m'écoutez, c'est parce que je suis là pour vous parler de la conversion écologique. En quoi ça consiste, je vais vous le dire. Et pour ça, on ne peut pas passer sous silence l'encyclique Laudato Si pour la sauvegarde de la maison commune. Dans cette encyclique, le pape François nous parle de la nécessaire conversion écologique face aux enjeux environnementaux et sociaux de notre temps. Réchauffement climatique, pollution, perte de biodiversité, augmentation des inégalités. Cette conversion écologique intégrale nous invite à nous remettre en question, surtout dans le monde occidental, à mesurer l'impact de nos choix de vie et à une compréhension du confort qui soit plus humaine parce qu'accessible à l'ensemble de l'humanité. Ça nous appelle donc à une transformation profonde, voire radicale, avec un nouvel art de vivre qui nous invite à sortir du consumérisme et de rythmes effrénés et peu respectueux du vivant, à vivre dans plus de sobriété, à se réjouir de choses simples, joie des rencontres notamment, à soigner la qualité de nos relations, à déployer nos talents dans le service, l'art, le contact avec la nature ou dans la prière. La conversion pose donc vraiment à la fois des changements de comportement pratique, mais aussi des transformations plus profondes, voire spirituelles. On est appelé à retrouver l'harmonie, une harmonie sereine avec la création, ce qui implique donc une contemplation, un émerveillement devant cette création. Je cite Laudato Si, en reconnaissant les liens par lesquels le Père nous a unis à tous les êtres, en retrouvant cette fraternité universelle avec toute la création, comme source de joie et de paix profonde que l'on ne peut pas trouver dans la recherche continuelle de plaisir ou la consommation de biens. Donc bien sentir que tout ça n'est pas à percevoir en termes de contraintes, mais vraiment comme une source de joie, d'être plus aligné et respectueux du vivant et de la planète, de ses rythmes et de ses limites. On connaît la difficulté pour la plupart d'entre nous, même de bonne volonté et sensible à la question environnementale, de changer nos habitudes de consommation et de renoncer à ce que le marché nous offre. D'où l'importance à la fois de rendre cette conversion écologique plus désirable, mais aussi de s'entourer et de se soutenir, de s'entraider dans cette dynamique. Et c'est exactement ce qu'on essaie de faire à la Fraternité Saint-Hildegarde, qui vous ouvre les bras grand ouverts. Il y a également des difficultés ou des éléments concrets plus difficiles pour moi à mettre en œuvre dans ma vie, comme le fait de ne pas utiliser de produits transformés ni emballés, mais seulement des produits bruts à cuisiner, achetés en vrac. Donc ça nécessite de cuisiner pour chacun des repas. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui reste assez difficile pour moi. Et également aussi la question pour le logement, la question du chauffage. Donc on est appelé à diminuer notre consommation énergétique au niveau du logement, et les deux tiers, 60% de la consommation énergétique d'un logement sont dus au chauffage, sont issus du chauffage, et du coup de baisser la température de son logement, c'est aussi quelque chose que j'ai du mal à mettre en place étant assez frileuse. Et enfin, même si 94% des Français estiment que le dérèglement climatique est un enjeu capital, le débat public semble avoir oublié ce sujet à moins de 2 mois du premier tour de l'élection présidentielle. À ce titre, samedi 12 mars, j'ai participé à une marche pour le climat et la justice sociale, où on pouvait rejoindre un cortège des convictions, des croyants. Donc il y a assez régulièrement ce genre de marche pour le climat qui donne une visibilité médiatique à ce sujet. Mais même si le pape François reconnaît que tout le monde n'est pas appelé à travailler directement en politique, il invite chaque citoyen à s'investir localement dans des associations et à bâtir une civilisation de l'amour, ce que nous essayons de faire chaque jour à Picpus. Donc continuons à cheminer ensemble sur ce beau chemin. Vive l'amour et vive Picpus.
Podcast Les Roses Éclats. Les Roses Éclats.
Hallelujah.
Lord, I know I've been changed.
Bonjour Meredith. Alors, merci d'accepter de dire un petit mot pour le podcast sur ce chant. Donc, nous faisons Lord, I know I've been changed. J'ai pensé à te demander ça parce que tu es d'origine américaine et donc je me suis dit que tu pourrais mieux que quiconque nous expliquer un peu le. le sens des paroles de ce petit gospel.
Donc, il faut dire que je ne connaissais pas cette chanson avant de D'accord. rejoindre la chorale. Mm-hmm. Mais je sais que c'est une spirituelle, mm-hmm. donc une chanson qui a été créée et chantée par des esclaves. Et ce qu'on me disait à l'école, quand on apprenait de tout ça, c'était que pour les esclaves, comme ils ne pouvaient pas se parler pendant la journée, ils chantaient des chansons religieuses pour cacher d'autres messages.
D'accord, il y avait un sens caché
dedans.
Aussi dans certaines paroles. Ouais. D'accord.
Donc je ne sais pas si c'est le cas pour cette chanson. Je dirais qu'il s'agit de la Renaissance. Lord, I know I've been changed, c'est je sais que j'ai été changée, donc par Dieu, normalement. Et puis, le fleuve, Jourdain, c'est un symbole, je sais, du baptême et d'une nouvelle vie, une nouvelle âme. Et ce que je trouve intéressant dans cette partie-là, avec mes paroles, c'est que l'eau a affroidi mon corps, mais l'eau n'a pas touché à mon âme. Et pour moi, ça veut dire, si on pense à des gens qui chantaient ça, peut-être, la vie d'un esclave, c'était hyper dur, mais ça n'a pas touché à son âme, peut-être. Ça m'a évoqué ça. Je pense que c'est intéressant parce que c'est opposer le physique et le spirituel. Donc il y a l'eau qui est juste un symbole et puis il y a ce que l'eau donne et c'est une nouvelle vie, une nouvelle âme. Alléluia.
Les éclats. Et nous arrivons maintenant à la minute spirituelle que nous allons faire à deux voix. Adélaïde, bonjour.
Bonjour Quentin.
Alain Thomasset définissait la conversion comme un processus dans lequel on a besoin de modifier sa relation à son environnement parce qu'il y a quelque chose qui ne nous convient plus. Est-ce que tu peux nous partager la manière dont tu vis des conversions dans ta vie aujourd'hui ?
Oui, alors effectivement, une manière notamment de se remettre en harmonie avec son environnement, ça peut être de faire le point sur soi-même et aussi sur sa relation à Dieu. Et je pense qu'il y a notamment un sacrement en particulier qui est le sacrement de réconciliation qui est vraiment propre à ça. Voilà, et en fait, c'est vraiment une démarche où on va se remettre en vérité déjà avec soi-même, avec qui on est. Et je pense que c'est vraiment le plus gros. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a autant de difficultés à aller se confesser, parce que c'est une vraie démarche d'humilité, et l'humilité, c'est être en vérité avec soi-même. Et donc, cette démarche, elle est particulièrement délicate, puisqu'elle va directement aussi toucher notre ego, et ça va aussi nous demander d'abandonner ces choses qui peuvent être pesantes, de les abandonner et de faire confiance à Jésus, au Seigneur, pour pouvoir délier ces choses. Et alors, par rapport à ce sacrement de réconciliation, à la confession, il y a un sujet qui est vraiment délicat, qui est toute la partie préparative, si j'ose dire, et donc qui va être liée au rapport qu'on a au péché, et la connaissance qu'on a du péché, et ce que c'est que le péché. Et le péché pour nous dans notre vie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de délicat. Donc il y a des choses, il y a des éléments qui sont donnés par l'Église pour nous aider à préparer la confession. On peut aussi prier l'Esprit Saint. Enfin, moi, je prie l'Esprit Saint en fait pour avoir des lumières. Et du coup, à chaque fois que ça arrive, eh ben, j'ai tous mes petits sujets qui reviennent. Je dis, ah, mais oui, il y a ça. Donc c'est assez étonnant en fait parfois ce temps de préparation. Où on va avoir des lumières justement sur ces choses qui nous font du mal, qui sont liées vraiment à notre personne, sur les choses qui font du mal aux autres, qui peuvent les blesser, mais c'est pas vraiment qu'une question de relation, mais qui peuvent vraiment les blesser objectivement, et surtout ces choses qui sont contraires à l'amour.
Et pour te convertir, pour opérer une conversion spirituelle, c'est une nécessité de passer par le sacrement de réconciliation ?
C'est une bonne question. Moi, je pense véritablement, oui, c'est vraiment un sacrement qui le permet. Et est-ce qu'il est absolument nécessaire ? Ben, on peut toujours se débrouiller sans, hein, mais dans la vie, dans une vie, on va dire, qui serait pas en relation avec Dieu. Mais en fait, faut savoir que la confession, c'est la réconciliation, et c'est la réconciliation avec Dieu. Quand on peut s'éloigner un petit peu de Dieu, et donc on est coupé progressivement par tous ces petits actes de non-amour, donc on est coupé de cet amour, et on est coupé de lui, et on est coupé de sa volonté. Et en fait, c'est notamment une partie du péché, c'est quand on est dans la volonté humaine, qui est purement humaine, et qui est du coup déconnectée complètement du plan de Dieu. Et le plan de Dieu, c'est le plan d'amour. Et donc, en fait, comme on est appelé, quand on est appelé à la conversion, on est appelé justement à aller un peu plus dans l'amour. Et en fait, il y a véritablement que se réconcilier avec Dieu qui fait qu'on peut se mettre dans cette volonté et ce plan d'amour.
Et est-ce qu'il y a un passage biblique qui t'évoque particulièrement ce qui se passe dans le sacrement de réconciliation ?
Alors oui, en fait... Moi, je pense beaucoup à l'évangile du fils prodigue. Donc, avec ce fils qui demande son héritage, qui prend quelque part, entre guillemets, une forme de liberté par rapport donc, à son père, et qui donc va aussi un peu faire son chemin, et puis enfin, peut-être sûrement partir en partant d'une bonne intention de devoir se trouver, va s'éloigner de son père. Et puis il va se retrouver dans une situation où on voit bien il va tomber en fait. Alors c'est une image, on utilise l'image des porcs, etc., mais c'est une image pour bien dire qu'en fait on tombe dans une forme de pauvreté, aussi peut-être de désarroi. Et en fait, ce qui est vraiment beau en fait dans cette parabole, c'est le père qui a cet amour qui est vraiment sans attente, hein. Il va pas, enfin bien sûr il va essayer de, entre guillemets, de retenir son fils, mais quelque part il le laisse partir et il le laisse bien sûr revenir, mais il y a une forme d'amour complètement sans attente, complètement gratuit du père, qui fait que quand le fils revient, et ben il peut le prendre dans ses bras et il peut l'accueillir. Et je pense que c'est vraiment le cœur de la confession du sacrement de réconciliation. On va retrouver un père, on peut aussi dire qu'on va retrouver un ami, parce que on va revenir vers lui et on va lui dire ce qui nous a empêché de le retrouver et de le rejoindre jusqu'à présent.
Merci beaucoup Adélaïde pour ce partage du fond du cœur.
Bon, tout ça est très dense. Je pense que je vais avoir besoin de réécouter les parties en prenant plus de temps. Toi, tu repars avec quoi, Antoine ?
Bah, la conversion, c'est un terme que je mange au petit déjeuner. Mais je t'avoue que je ne me rendais pas compte d'à quel point c'était lié à notre liberté, à se défaire de nos attaches, et surtout de celles qu'on refuse de voir la plupart du temps. Ou bien ça permet de rester libre dans des situations d'obscurité, de violence extérieure, comme on l'entend dans la chanson. Et je découvre que ma principale conversion n'a jamais été tant de me tourner vers quelque chose, ou en l'occurrence quelqu'un, que de me détacher de mes défauts. Et ça, c'est encore en chantier.
Ah ça, je te le confirme.
Ouais, tu donnes des leçons, mais j'attends tes résolutions. Parce que pour construire la civilisation de la mûre, comme dit Camille, il faut se secouer un peu, et vendre de l'aspirine, ça ne va pas suffire.
Bon, notre épisode touche à sa fin, mais le chemin ne fait que commencer. Il y a du boulot. Surtout quand je regarde la personne assise à côté de moi. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé, et comme toujours, les noms sont dans les crédits sur la page du réseau.
C'est tout. Il n'y a plus qu'à, comme tu as dit. Bonne suite de carême. Direction la résurrection.
Podcast Lire aux éclats.
Voici, je fais toutes choses nouvelles.
Nous sommes dans une aventure incertaine.
Lire aux éclats.